Cadeau.
Tu veux que je fasse quoi avec ça?
Faut bien qu'il paie pour ce qu'il t'a fait.
D'accord, j'ai compris.
Mohamed!
Après, tu butes?
Mais c'est pour toi, c'est pour te venger, Mohamed.
D'accord, tu veux me venger? Tu vas buter tous les racistes de France?
Bah, s'il faut, ouais.
Bah, t'as du boulot.
On va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé.
Martin Luther King l'a fait. Gandhi l'a fait.
C'est une marche contre le racisme et pour l'égalité.
Bonjour.
Tu viens pour la marche?
Moi, mon fils, je le connais mieux que toi. C'est une feignasse, ça boit rien.
Je suis sûr qu'il est capable de le faire.
Ah ouais? Tu es capable de faire ça, toi?
Hop.
Jaja, en juin 1983, avec d'autres jeunes des Minguettes, une cité près de Lyon, et après avoir vu un film sur Gandhi, décide d'organiser une marche pacifique à travers la France pour désamorcer le cycle de violence entre jeunes et policiers. Accompagnés par des militants antiracistes, ils entamaient une marche contre le racisme et pour l'égalité des droits. Deux mois et un millier de kilomètres plus tard, ils étaient accueillis à Paris par 100 000 personnes. Très médiatisés à l'époque, leur initiative a disparu des esprits. Peu d'événements ont marqué ces 10 et ces 20 ans, et aujourd'hui, seuls 2 Français sur 10 s'en rappellent. 2013 commémore les 30 ans de cette marche historique, et le réalisateur belge Nabil Ben Yadir sert de locomotive en sortant un long métrage, librement adapté et qui retrace cette action pacifique. Son film, intitulé tout simplement « La Marche », était également présenté en avant-première et en ouverture du Arras Film Festival. Rencontre avec les acteurs Toufik Djalab, Nader Boussandel, Mbarak Belkouk et bien sûr le maître d'œuvre de ce film coup de poing, Nabil Ben Yadir. Une interview réalisée lors d'une conférence de presse par Joris Nelsens de Radio Scarpe Sensé et moi-même.
Voilà, ça commence. Partout, partout, sur la douce France.
Pour le casting, est-ce que vous aviez déjà tout décidé d'avance?
Il y avait une personne qui était évidemment, ce qui m'a un peu obligé. Non, mais c'est Nader Boussandel qui jouait dans mon premier film, Les Barons, et c'est un peu lui, parce que c'est lui qui m'a présenté Nadia Lagdar, qui est la co-scénariste du film, qui avait créé la première rencontre, et puis avec Nadia, on s'est remis à l'écriture ensemble. Et Toufik, ça a été une vraie rencontre de casting. Il est arrivé, on m'avait proposé Toufik, qui pour la petite histoire était venu avec un pied cassé au casting. Je me suis dit, la marche avec un pied cassé, ça ne sera pas toi. Non, mais au fur et à mesure, il a rétabli ça. Mbarek aussi est venu aussi au casting. Ça a été une vraie rencontre artistique parce que voilà, il correspondait vraiment au personnage, à tous les niveaux, au personnage de Farid. Le reste, c'est vraiment des envies concrètes. Vincent Rottier, que j'avais déjà vu dans plein de films et qui est une espèce de James Dean, entre James Dean et Renault, torturé. Et Lubna Zabal, c'est une voisine à Bruxelles. C'est une comédienne. J'avais vu aussi récemment dans Incendie. Voilà. Puis le reste, c'est vraiment des envies particulières. Charlotte, ça a été une rencontre que je voulais faire. Et donc, je l'ai rencontrée. Je l'avais encore vue nulle part. Ce qu'elle avait fait, Astérix, avait commencé, mais je n'avais pas encore vu ce film. Et puis voilà, Olivier Gourmet, au fur et à mesure, c'est des rencontres. C'est des gens qu'on a contactés, des gens qu'on voulait. Puis finalement, on a rencontré d'autres personnes, Afsia et Jamel, qui est arrivé finalement en bout de course. Ça a été le dernier à entrer dans le projet du film. C'est des rencontres d'univers totalement différents. Toufik vient du théâtre, et puis croiser le cinéma d'Olivier Gourmet avec le cinéma de Jamel, c'était quelque chose de très, très intéressant à faire.
Pour le travail d'écriture du scénario, le travail de documentation, je suppose que vous avez rencontré évidemment les marcheurs d'origine pour en parler. Comment ça s'est passé ?
On a fait un vrai travail avec un documentaire qui nous a beaucoup aidé, et pour les comédiens aussi. C'est un documentaire qui a été fait par l'émission à l'époque qui s'appelait Mosaïque, et qui avait eux suivi la marche, et qui a fait, il y a un docu inédit qu'on a réussi à voir. J'avais fait circuler le DVD aux comédiens, ils s'en sont vraiment bien imprégnés, je pense. En tout cas, ils diront un mot là-dessus. Et puis après, on a fait des recherches dans l'INA, à l'INA, pour s'inspirer de l'époque. Politique, sociologique, même vestimentaire, etc., pour essayer de s'approcher. Parce que moi, à l'époque, j'avais 3 ans, Nader avait 22 ans à l'époque.
J'allais sur mes 22. C'est ça, je rigole parce que je suis vexé. J'allais sur mes 22, enfin.
Il n'y avait pas encore le projet de mettre. Mbarek, tu n'étais pas encore en projet, toi. Tu étais nulle part. T'étais pas encore né, toi.
Pas du tout.
Non, mais voilà. Puis après, le DVD a circulé. Et puis, on a rencontré, voilà, les Toumi Djaïdja, interprété par Toufik, que moi, personnellement, j'ai rencontré au Minguette. Il m'a montré l'endroit où tout a commencé, là-bas, la bavure, là où il a grandi. Et puis, je voulais absolument que Toufik rencontre Toumi Djaïdja. Et Nader, c'est un personnage qui... C'est un peu Rachita qui nous inspirait avec Nader, parce que c'est un peu le... C'est un Lyonnais, c'est un quart de séjour et c'est un militant à sa manière. Un espèce d'ovni. J'avais besoin d'un personnage un peu ovni, parce qu'un arabe en cuir à l'époque, je vous assure qu'il y en avait un. Et c'est Rachita.
Oui, oui, les images nous ont beaucoup aidé, même sur la façon dont les jeunes s'exprimaient à cette époque, dans les années 80, le langage, la façon de s'exprimer, les revendications, et puis aussi le comportement, l'allure, les vêtements, tout ça. On était vraiment chanceux de tomber sur ce documentaire, et en plus ça traitait de la marche, et du coup on a pu vraiment, chacun à sa manière, s'inspirer de ce documentaire. C'était super.
Moi j'ai évidemment utilisé le documentaire, mais j'ai surtout passé beaucoup de soirées avec Rachita, des soirées bien arrosées on va dire, mais c'était très intéressant d'avoir son avis, savoir un petit peu comment lui avait vécu l'événement. Je me suis imprégné de tout ce qu'il me racontait, du personnage qu'il était et qu'il est toujours, et j'ai essayé de m'en servir pour mon personnage, et j'espère que ça réussit.
Barak, toi qui es plus jeune, comment t'as fait justement pour t'imprégner de cette histoire ?
Bah moi, tout début, je connaissais pas cette histoire-là. J'ai découvert à travers le scénario, et avec Nabil, on a beaucoup parlé. J'ai regardé aussi des archives sur INA, le DVD qu'on nous a gentiment prêté. Et comme il a dit Toufik, on a vraiment regardé leur langage, leur vêtements, comment c'était dans les années 80. Ça a beaucoup changé. On est en 2013, ça fait 30 ans, donc... On s'est beaucoup inspiré des DVD et des archives d'INA.
Alors évidemment, c'est aussi la commémoration des 30 ans. Il y a plein de choses qui vont se passer. Alors ce film, on dirait qu'il tombe vraiment pile poil. Est-ce qu'il avait déjà été pensé avant, ou c'est vraiment cette année que vous vouliez le sortir ?
La rencontre avec Nadia, encore une fois grâce à Nader, elle a été faite il y a 2 ans et demi. Ça fait plus de 10 ans qu'elle avait ce projet, qu'elle avait mis dans un tiroir parce qu'elle n'arrivait pas à le monter, et que Nader l'avait recroisé dans un resto et lui a dit « alors ton projet... »
Elle était à deux doigts d'abandonner ce projet, et puis c'est à cet instant-là que nous on sortait du succès des Barons avec ouais. Nabil, mm-hmm. et puis j'ai tout de suite pensé à ce que une relation se fasse, en tout cas voilà, qui puisse la rencontrer, mm-hmm. et voilà, et ça a matché, et puis après le reste a suivi, ils ont repris tout à zéro, ils ont recréé... une histoire avec en plus l'objectivité de Nabil qui est belge et qui donc nous sauve. Moi je pense personnellement que si ça avait été un réalisateur français, il y aurait tout de suite eu un parti pris ou un militantisme peut-être exacerbé. Là pour le coup il relate vraiment les faits et il raconte l'histoire telle qu'elle s'est passée dans la dimension humaine de la chose, c'est-à-dire dans la rencontre de ces jeunes gars qui décident de faire une chose folle qui est de partir de Marseille jusqu'à Paris. Et je trouve qu'il l'a très très bien décrit, c'était je pense nécessaire que ce soit lui qui le fasse. Ouais.
Nous allons traverser 55 villes.
Bah, bienvenue !
Parcourir 1200 km.
Ouais, je sais, on n'est pas très nombreux, hein, je suis même tout seul.
Tu marches, Farid ?
Non.
Farid, s'il te plaît.
Moi, je suis là, il pleut, ils sont plus mes pieds !
Bah, t'en as de la chance, parce que nous, on les sent, tes pieds, hein ?
Je me déshabille comme ça, normal, devant tout le monde.
Ouais, ça dérange quelqu'un, je me déshabille ici ou pas ?
Non.
Aucune loi n'obligera jamais un homme à m'aimer, mais il est important qu'elle lui interdise de me lyncher.
Qu'est-ce que tu fais là, toi ?
Ben, je vais marcher avec vous ! On va marcher ensemble ! On va tous marcher pour le racisme et contre tous les trucs que vous avez dit là, les... C'est une marche propre. Et ben, je suis plus propre que toi, moi.
Mais bien sûr.
Dans la vie, il faut savoir pardonner.
On est là pour marcher, on est là pour discuter, les mecs.
Oh, égalité !
Croire dans leur pays, c'est melon.
Tu risques rien. Toi, ta tête, c'est un gilet pare-balles. C'est pas vrai, peut-être, avec tes rouges aspirines.
Qu'est-ce que tu connais du racisme ?
Mais je connais mieux que toi, le racisme.
Ça va trop loin, François, on n'y arrivera pas. Le cœur des gens s'est fermé.
Il est temps de dire stop ! Stop à la haine !
Vous allez me l'arrêter, cette marche.
Je salue la France de toutes les couleurs !
Nous avons décidé de marcher. Est-ce que c'est le bon choix ? On n'en sait rien. Mais au moins, on aura essayé.
Est-ce qu'il y a éventuellement aussi une part de fiction, puisque c'est une adaptation assez libre? Je pense surtout à cette scène où la jeune Mounia se fait quand même crucifier par une croix gammée dans le dos. Est-ce que ça a été arrivé réellement?
C'est très particulier, parce que quand on a fait nos recherches d'archives à l'époque, en 83, c'est l'été des tontons flingueurs, c'est l'été meurtrier, où il y a eu vraiment des crimes racistes, avec aucun procès qui suivait. Et la croix gammée, c'était une spécialité. Il y avait des gens qui se faisaient choper, des femmes qui se faisaient tailler des croix gammées dans le dos, inscrire pute dans le ventre alors qu'elles étaient enceintes. Il y avait vraiment tous ces trucs qui se passaient, qui étaient laissés pour mort. Et quand on était tombé là, c'est un événement particulier qui s'est passé à Bondy pendant la marche, mais pas avec les marcheurs. Et c'était un truc qui nous avait tellement retourné, parce que ça ne s'est pas passé une fois, c'était vraiment une habitude que nous, on voulait, ça nous a permis aussi de créer de la tension aussi dans le film en plus, mais c'était une espèce de spécialité à l'époque, où les gens se faisaient prendre, et certaines personnes dans les témoignages auraient préféré limite laisser mourir, parce que c'était pas du tailladage avec du cure-dent, c'était très profond, et les gens étaient marqués à vie. Donc on a voulu mettre ça, et les chasseurs, c'est vrai, vraiment tous ces événements-là, là, on a essayé de condenser, essayer de respecter au plus l'époque.
Marche contre le racisme et l'égalité des droits, mais aussi c'est une sorte de quête initiatique de chacun des personnages.
Oui, chacun a sa propre histoire. Il y a des gens qui sont possédés par la non-violence, comme le personnage de Mohamed ou le personnage d'Olivier Gourmet. Il y a des personnages comme Farid qui, lui, a sa responsabilité face à son père, où il veut prouver à son père qu'il est capable de faire quelque chose de sa vie. Mais en même temps, lui, la non-violence, le racisme, c'est secondaire, c'est abstrait pour lui. T'as le personnage de Kera aussi, qui est la non-violence, c'est juste une manière de faire quelque chose pour arriver autre part. Donc mais chacun a vraiment son histoire, quoi. Et c'est des gens qui n'auraient peut-être jamais pu se croiser s'il n'y avait pas eu cette marche. Et c'est ce qui s'est passé dans la réalité. C'est des gens qui venaient un peu de partout, ils se sont donné rendez-vous à Marseille pour arriver. Il y a des gens qui ont arrêté en plein milieu, il y a des gens dont les parents les ont obligés à ne plus faire la marche. Et donc voilà, c'est vraiment une quête personnelle pour chacun. Et chacun va en prendre pour son grade et va trouver finalement son intérêt et grandir de son côté.
Évidemment, ça se passe dans les années 80, mais en même temps, ce film aurait très bien pu se passer aujourd'hui. Il y a même d'ailleurs, si je ne me trompe pas, quelques clins d'œil, notamment la petite boutade du pain au chocolat.
Mais ça, c'est une scène qu'on a faite, qui n'était pas du tout en scénario, qu'on a faite sur place.
On l'a inventé sur
place. On l'a mis en place sur place avec les comédiens. Moi, j'avais envie de la placer, je ne savais pas quand, où, et puis le temps passait. Et on l'a finalement fait à Marseille, puisqu'on a terminé finalement le tournage là-bas. Et on a plein. Vous avez aussi, bon, on va pas, c'est l'idée, c'est de les trouver vous-même. Le RG, il répète les phrases de Zemmour. Il y a plein de petits détails. Il y en a encore quatre, à vous de chercher. Mais voilà, et puis il y a plein d'anachronismes volontaires, tu vois. Parce que finalement, quand vous voyez par exemple la scène avec Olivier face à Rufus qui dit le cœur des gens s'est fermé, on leur parle de crise, etc. Ça résonne en 2013, mais c'est exactement ce qu'il disait à l'époque. Là, par contre, c'est pas du tout un anachronisme. C'est vraiment ce qu'il disait à l'époque. Et on a l'impression que la crise, c'est l'espèce de pigeon ou lapin qu'on peut sortir du chapeau dès qu'on peut faire en sorte de créer des soucis ou de créer des tensions. Et des fois, la crise est une bonne excuse pour foutre un peu le bordel.
Est-ce que vous auriez participé à cette marche si on avait une en 2013?
Évidemment, oui, parce que je pense qu'il est important de marcher. Il y a un peuple qui marche, il y a un peuple qui vit. C'est ce que disait Toumi. Mais je pense que maintenant, les marches sont un peu à la mode. Hein, maintenant, tout le monde marche finalement. Tu vois, on ne sait pas des fois même pas pourquoi, mais c'est tellement marketé. C'est la marche des agriculteurs. Donc, vous verrez jamais un plombier là-bas. C'est tellement chacun sa propre marche, alors qu'à l'époque, c'était d'une naïveté totale. La marche pour l'égalité contre le racisme, tellement abstrait, c'est où on commence et où on va, pourquoi il habite tout le racisme. Et c'était pour tout le monde, quoi. C'est pour ça que la dénomination, après, appelée la marche des beurs, c'était une pure limite insulte à leur philosophie de départ, qui était l'égalité pour tous et pas plus à Pierre qu'à Mohamed. Ils voulaient vraiment devenir des Français et il n'y avait pas, entre guillemets, que des beurs. D'ailleurs, c'est très drôle, mais le mot beurre, eux, le découvrent à Paris. Ils ne savaient pas. Quand ils arrivent, ils voient Libé, Paris sur beurre, ils se disent, mais c'est qui les beurs? On comprend pas. Et voilà, c'était très drôle qu'après... les médias ou les formules de certains politiques, c'est pas spécialement les médias, ça a été volontairement placé après par les politiciens, parce qu'il fallait justement pouvoir distinguer les choses. Se dire, ah ben c'est que des beurs. Voilà. Et alors que eux, c'est un peu les remettre en question tout leur travail qu'ils ont fait d'égalité pour tous. Et ce qu'ils voulaient, eux, c'est d'être français. Moi, je pense que ça aurait été plus logique de l'appeler la marche des Français. Mmh. Mais voilà, ça a été très réducteur et c'est ça qui les a en grande partie blessés.
Le protagoniste principal originel, qui a également aussi écrit un bouquin avec un sociologue, ouais, justement pour essayer de ne pas être récupéré à nouveau, politiquement parlant, parce qu'on ne peut pas passer à côté de cette récupération politique avec SOS Racisme à l'époque, etc., etc. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand on voit que la montée du Front National est encore d'actualité, quel est votre regard là-dessus? Peut-être que cette commémoration des 30 ans va être aussi, et déjà peut-être, puisque François Lamy, je crois, le ministre de la Ville, s'est vu refuser la visite de Toumi.
Après, il a fait une réponse pour expliquer sa raison, évidemment. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce qui est très beau dans le livre de Toumi, c'est qu'il a voulu mettre les choses au clair, raconter un peu sa vie. Et par rapport à SOS Racisme, d'ailleurs, on le dit à la fin, vous l'avez vu, les panneaux, pour nous, c'était important de le préciser. De manière, pas du tout de manière agressive, mais pour remettre juste l'église au milieu du village. Toumi est quelqu'un de très sage et il a une vision des choses très intéressantes. C'est que lui, en organisant la marche avec Jamel Atala, Christian Delorme, ce qu'il voulait, c'est unir la France et la réunir. C'est de se dire, on est tous pareils. Ce qu'a fait SOS Racisme, c'est séparer la France en deux en disant, il y a les méchants, il y a les gentils, il y a les victimes, il y a les bourreaux. Et ce que raconte le film, c'est que le racisme, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est intracommunautaire, ça va dans les deux sens, c'est social et on ne peut pas spécialement réduire de manière très manichéenne en disant la France est divisée en deux, il y a les gentils, il y a les méchants. On ne peut pas. Et ça a été à l'encontre de leur idée, eux, d'égalité. Et voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, Toumi s'exprime par la force des choses, parce que pendant 30 ans, il a refusé les médias et il a totalement validé le film et il n'a plus de film. Et nous, ça nous fait plaisir qu'il puisse en même temps lui-même prendre la parole. Alors maintenant, évidemment, quand on dit que le film arrive à point nommé, évidemment qu'il arrive à point nommé, mais j'avais envie de vous dire, il sera toujours à point nommé. C'est triste. C'est pas le film qui arrive à point nommé, c'est la période qui est tout le temps comme ça pour l'instant. C'est très, très, très tendu. Alors évidemment, il y a des éléments qui sont dramatiques. Moi, quand je me rappelle la levée de boucliers de certains politiques quand en Italie, la ministre s'est fait traiter de guenon, mais quand ça arrive en France et qu'on a des enfants qui lancent des bananes, la levée des boucliers des politiciens, je l'attends encore. J'aurais aimé avoir un discours d'un président ou d'un ministre qui puisse se positionner clairement. Certains journalistes, beaucoup de journalistes l'ont fait, mais pas assez fort quand même. C'est quand même grave. Moi, c'est pas les parents. Moi, les parents me font peur. Ceux-là, il faut les mettre en centre de rééducation. Mais inciter les enfants à lancer une peau de banane à une ministre parce qu'elle n'a pas de la même couleur, c'est dramatique. Tout le monde trouvait horrible quand ça se passait en Italie, mais quand ça arrive ici, on veut juste penser à ce qui se passait en Italie. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est chaque fois des petits détails. Et on ne peut pas dire que la France est raciste. On ne peut pas tomber dans ce piège-là parce qu'on tendrait la main au Front National qui vont vous dire « Ah ben voilà, ben alors si c'est comme ça, ça se passera comme ça. » Mais on ne peut pas dire que tout est normal. Et la différence qu'il y a par rapport aux années 80, moi j'ai cette distance et ce recul, parce qu'en Belgique aussi, il y a énormément de problèmes, mais c'est qu'avant, les racistes, dans leur discours raciste et xénophobe, le criaient haut et fort. Donc on pouvait forcément le démonter. Entre-temps, ces gens ont appris la communication et sont entourés de personnes qui arrivent à travailler leur communication. Et ils arrivent à vous faire croire à certaines personnes qui ne sont pas du tout ni xénophobes ni racistes, et ce sont juste des gens qui sont démocrates. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les discours racistes ne sont pas spécialement parmi des gens qui font partie du Front National. Il y a des discours, il y a des phrases dangereuses qui sont prononcées par des gens qui sont élus et qui sont au pouvoir dans des partis dits démocratiques. Et c'est ça le danger, ça s'appelle le populisme. Et c'est ce qu'ils ont compris, c'est que les discours racistes sont des discours avec un vocabulaire très simple, tout le monde le comprend. Les politiciens démocratiques nous font des discours avec des mots de médicaments, écrits des discours par des gens qui ont fait 10 ans d'études plus qu'eux. Moi, après 30 secondes, je ne les écoute plus. Le jour où ils ont compris qu'il faut essayer d'avoir un discours simple pour parler à tout le monde, ça ira beaucoup mieux. Et c'est ça qui se passe maintenant. C'est que les formules, les phrases vulgaires, les phrases chocs, on ne garde que ça. Et les phrases douces, avec des mots de médicaments, n'intéressent plus personne. Et c'est ça qui est dangereux. Donc on peut moins le démonter, on peut moins le condamner, parce que les gens vont vous répondre « Ouais, mais ils disent ce qu'ils pensent ». L'idée, c'est pas de l'empêcher de dire ce qu'ils pensent. L'idée, c'est de pouvoir nous dire que ce qu'ils pensent, c'est dégueulasse. Et donc voilà, et c'est ce qui se passe en France. Et c'est ce que je vois avec ma culture belge.
Belge.
Voilà.
Je vais m'installer à Paris.
Qu'est-ce que tu vas faire à Paris?
Il faut que je me lance dans la vie, autant que je la fasse à Paris, après cette marche. Il faut que les choses, elles changent. Je vais me trouver un travail, un appartement. Puis surtout, je serai plus près de toi.
Ouais, mais moi, à Paris, j'ai mes études, ma vie et mes potes.
Ouais, mais ça me dérange pas, au contraire. Moi, je vais vivre ça avec toi.
Ah non, mais je t'arrête tout de suite, Sylvain. Notre histoire, elle s'arrête le 3 décembre.
Je comprends pas.
T'as grandi avec Farid et Mohamed. Tu sais très bien qu'une arabe et un français, c'est pas possible.
Mais t'es plus française. On marche depuis 1500 km. Et tu me sens un truc aussi con. C'est ça la marche pour l'égalité contre le racisme?
C'est pas du racisme, c'est culturel.
Donc quand c'est contre les Arabes, c'est du racisme, et contre les Français, c'est culturel.
Au final, moi quand j'ai vu le film, en fait, je me suis vraiment interrogé, et les personnages aussi s'interrogent sur cette notion d'égalité finalement. Elle est utilisée dans le film, mais il y a vraiment une remise en question sur cette notion d'égalité entre ces personnages.
Oui, mais parce que justement, l'idée c'est de ne pas, de pas faire un film avec des personnages qui n'évoluent pas ou qui ne se contredisent pas. Ce que dit le personnage de Kera à Olivier Gourmet est horrible. Quand elle le remet en question, ce que dit le personnage de Mohamed Hassan en lisant « Tu vas pas venir avec nous », c'est une marche propre. C'est horrible. L'égalité, déjà, est inégale. Le personnage de Mohamed demande une égalité, mais il ne veut pas la donner à son collègue qui demande la même chose que lui. Donc évidemment, l'idée, c'est d'évoluer avec des personnages qui sont noyés dans des contradictions et dans des douleurs internes. Et si c'était pour en faire des héros, ou alors des vrais Gandhi sans aucune contradiction, sans aucune vulgarité ou qui sont parfaits, c'est des personnages qui ne m'intéressent pas. Moi, c'est le cinéma qui m'intéresse, c'est avec des acteurs qui bégayent, c'est avec des acteurs qui puissent dire conneries. Ce que dit le personnage de Monia à Sylvain, en lui disant c'est pas du racisme, c'est culturel, c'est horrible. Mais elle peut dire des conneries. Elle dit des conneries et à la fin, ils s'embrassent, ils sont là. C'est pas parce qu'elle dit une connerie une fois qu'elle est conne. Mais elle ne peut pas être parfaite. Et nous, c'était important que le racisme, voilà, il soit pas manichéen. C'est pas seulement d'une catégorie de personnes vers une autre catégorie de personnes. Il va dans tous les sens. La scène où ils arrivent dans une salle avec des associations où il dit « Vous avez quoi comme diplôme pour nous représenter ? Toi, t'es un fils d'Arki, et tatati tatata. » Le racisme, il est aussi là. Et c'est comme le dit le personnage de Mohamed, le racisme, il est avant tout social. Jamel dit très bien, moi je peux changer la vie d'un raciste au fin fond d'une campagne en lui donnant 750 euros par mois en plus. Évidemment, le problème, il est social. Si tout va bien chez vous, le regard en face de vous, la personne en face de vous, il ira bien parce que vous allez bien.
Barak, tu es le plus jeune de la bande, mais en même temps, tu es aussi l'un des plus poétiques, puisque c'est toi qui décides d'écrire l'histoire. Quel est ton regard sur l'ensemble du film, sur l'ensemble de ton rôle et tout le déroulement? Et maintenant que tu connais l'histoire, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Je pense que déjà, moi, mon petit rôle, c'est que le personnage ramène un petit peu, c'est l'étincelle de rigolade. Comme m'a dit une personne, elle m'a dit, j'étais en train de pleurer, je t'ai vu, j'ai rigolé. C'est la petite étincelle et mon regard sur la marche, c'est une marche très importante, une marche qu'on a oubliée, qu'on a gommée, qu'on a effacée. Et grâce à ce film-là, ça donne une mise à jour, je pourrais dire comme ça, une mise à jour et un second souffle à cette histoire de France.
Est-ce que tu as enfin retrouvé ton pain au chocolat?
Malheureusement, non. C'est Nabil qui l'a mangé.
Vous êtes en direct de Radio PFM. 99.9, je suis un Belge.
Marchons.
Le monde est ainsi. L'histoire est ainsi. La justice n'est pas un acquis. Elle est le fruit de la révolte. Lève-toi. Lève-toi et bats-toi. Pense justement. Parle justement. Ne te tais pas. Ne doute pas. Avance. Avance. Sois la promesse d'un futur plus juste. Et que nos pas, hier hésitants, accompagnent aujourd'hui un destin.
C'était un entretien avec l'équipe du film La Marche, réalisé dans le cadre du Arras Film Festival, 14e édition. Ce long métrage est sur les écrans français depuis le 27 novembre.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie, ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, de feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneau. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leur Côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarer. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dinde marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.